la fonderie. Donc, distinguer le point de vue être et avoir par rapport à la substance et la relation. La relation nous donne un droit à avoir, possession. Au dernier cours, vous avez parlé de l'universel, une relation de raison que fabrique l'intelligence. Fabrique, le mot n'est pas tout à fait juste, hein. Je sais bien que c'est un peu. C'est ce que fait naturellement l'intelligence. Donc il n'y a pas de fâcheré. Il ne faut surtout pas considérer l'universel comme le fruit d'un fâcheré. C'est naturel. La connaissance universelle est naturelle à l'homme. C'est pour ça qu'elle est si forte. La connaissance générique et naturelle de l'homme, elle n'est pas infaturée. J'en fais pas ce que je veux. C'est naturel. Et on se comprend tous quand on dit animal. Tout le monde comprend ce que c'est. J'ai pas besoin d'expliquer beaucoup. Parce que le genre, la connaissance générique, est une connaissance naturelle. La connaissance analogique est aussi une connaissance naturelle. C'est une connaissance naturelle en montée. Analogos, analogique. Tandis que la connaissance universelle est horizontale. Ça, c'est pour que vous compreniez mieux. L'analogie, on monte. Alors, au dernier cours, vous avez parlé de l'universel, la relation de raison que fabrique l'intelligence. Mais quand il s'agit d'une relation réelle, telle qu'une amitié, il est beaucoup plus difficile à préciser son fondement. C'est juste l'inverse, hein. Il est beaucoup plus facile de préciser le fondement d'une relation réelle que de préciser le fondement d'une relation de raison. Oui. Parce que c'est plus naturel. Une relation de raison, le fondement est naturel. Tandis qu'une relation de raison, le fondement est l'intelligence. Or, tout ce qui est naturel est plus intelligible que ce qui devient d'intelligence. C'est intéressant, non, parce que je corrige exprès. Quand il s'agit d'une relation réelle, telle que l'amitié, il est beaucoup plus difficile à préciser son fondement au niveau de l'être. Certes, mon ami existe comme moi aussi je suis. Le fondement de l'amitié, c'est la koinonia. Et la koinonia est explicite dans l'amitié. Quelque chose de commun. C'est comme ça qu'on ne cherche pas dans l'amitié de savoir ce qu'il y a de commun, on le vit. Et vous précisez que l'amitié honnête, l'amitié délectable, l'amitié utilitaire, le fondement caractérise l'amitié. Certes, mon ami existe comme moi aussi je suis. C'est pas l'être. C'est pas l'être qui est le fondement de l'amitié. Parce que si l'être était le fondement de l'amitié, tout le monde serait mes amis. Tout ce qui existe. Et même l'animal. Donc le fondement de l'amitié, c'est pas l'être. C'est au niveau de la vie. C'est ce qu'il y a de commun dans notre vie, entre l'ami et mon ami. Oui, alors évidemment, c'est très mobile, hein. comprenez, une amitié qui commence. Quel est le fondement de cette amitié? Elle commence, il y a très peu de choses. Il y a le fait, on joue aux échecs ensemble. Et ça fait une amitié. Les joueurs d'échecs, ça fait une amitié. Mais en dehors des échecs, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais tous les lundis, on se retrouve. Et on joue ensemble. Alors, les échecs, il y a le football, il y a le devoir. On se retrouve tous les lundis pour écouter le même cours. C'est une certaine cognonia, certaine communauté de vie. Un cours forme une communauté de vie. Et à partir d'un cours commun, il y a une certaine amitié. Et ça varie pour toutes les amitiés. Mais c'est à l'intérieur même de l'amitié. C'est pas extrinsèque à l'amitié. Ça fonde l'amitié. Certes, mon ami existe comme moi aussi je suis. Ce sont les termes de la relation, non. Les termes de la relation, ce n'est pas l'être. C'est une vie commune. Cette vie commune, c'est jouer aux échecs. Cette vie commune, jouer au foot. Cette vie commune, c'est on suit le même cours. C'est comme ça que se font des amitiés. Tous les jours, on va chercher de l'eau. Au puits, on rencontre tout le temps la même personne. Au début, on l'a salué. Puis, au bout d'un certain temps, c'est ainsi quand même. Tous les jours, on se retrouve à la même heure sur l'ascenseur. Une certaine cognonia. Pendant 10 minutes, on est descendu en même temps. Mais, c'est très réaliste, hein, l'amitié. C'est à partir d'une action qu'on fait ensemble et qu'on est heureux de faire ensemble. C'est vrai, la première fois qu'on s'est rencontré à l'ascenseur, on s'est regardé. La seconde fois, on a vu qu'il y avait un habit qui avait changé. La troisième fois, quand même, il y a eu... L'ascenseur n'a pas bien marché. On a été pris prisonnier. L'histoire d'une amitié, c'est l'histoire du fondement d'une amitié. Qu'est-ce qui a fait cette amitié? Et c'est pas l'être, c'est l'activité, la cognonia. Il faut beaucoup réfléchir à ça. Donc, ce sont les termes de la relation. Non, ce n'est pas les termes de la relation que vous l'aimiez. Mais si on demande à préciser ce qu'il y a entre nous, ah voilà, ce qui demande à venir, c'est la cognonia, ce qu'il y a entre nous. Je ne savais que décrire les choses qu'on fait ensemble. Oui, les choses qu'on fait ensemble. Ensemble, on a pris l'ascenseur à telle heure. Et on ne s'était pas entendu, hein. On s'est trouvé ensemble, etc. Et partout, ce n'est pas ça qui fait le cœur de notre amitié. Ce qui fait notre cœur d'amitié, c'est quand on reconnaît d'abord qu'on fait la même activité, à la même heure, et on se rencontre. Pas tout le temps, tout le monde là, à la même heure. Non, cet individu, je le rencontre là. Et les événements ont fait que, non seulement on s'est rencontrés, mais on s'est mis à se parler. Puis, petit à petit, on a vu qu'on avait quelque chose de commun. Qu'est-ce que le philosophe peut dire au fond de la relation d'amitié? au plus formel, il précise le fondement, la cognonia, communauté, communauté de vie. On fait les mêmes activités, la même heure. On se rencontre. De substance, c'est... Non, je n'aime pas la substance. J'aime mon ami. Et l'aspect de la substance, c'est une analyse philosophique. Or, le terme de l'analyse philosophique n'est pas aimable. C'est la personne que j'aime. Et la cognonia, c'est l'activité de la personne. Je suis donc au niveau non plus de la substance. Je vous ai dit, on dépasse la substance et on regarde tout ce qui conduit à la substance, mais qui n'est pas la substance. La substance, ce n'est pas avoir, c'est être. Donc, dans l'amitié, l'amitié comme telle n'est pas la substance. Je n'ai jamais découvert la substance par l'amitié. Je découvre la personne par l'amitié. C'est une personne que j'aime, dans son activité propre. Et son activité propre est la même que la mienne à telle heure de la journée. Donc il y a un point de contact. C'est ça la cognonia. Alors, deux substances qui s'aiment. Jamais vu ça. J'ai jamais vu deux substances qui s'aimaient. Parce que la substance, c'est un principe. Donc, la substance comme substance n'est principe que quand mon intelligence la saisit. Autrement, elle est principe de la réalité que je saisis par l'intelligence. Et la substance comme telle n'est pas aimable. Mais la substance devient aimable grâce à son activité. Elle est source d'activité. Et j'aime quelqu'un à travers son activité. C'est la première façon dont je m'accroche à quelqu'un. Et autrement, alors vous télescopez et vous ne voyez plus. On a des choses absurdes, de substances qui se rencontrent. J'ai jamais vu ça. C'est la fin du monde, deux substances. Deux principes qui se rencontrent. Ils sont sûrs de ne pas s'entendre. Deux substances qui s'aiment. Faut-il une nouvelle analyse de l'être selon la fin pour pouvoir parler de l'amitié en métaphysique? Faisons attention. Le but, il faut toujours comprendre pourquoi on fait cela. Pourquoi, après avoir vu la substance, j'ai voulu regarder toutes les, ce qu'on appelle tous les prédicaments, tous les modes particuliers dans lesquels l'être se donne à moi, c'est-à-dire la qualité, la quantité, l'activité, la passion, l'amitié. Alors, je vois là comment la substance commande, mais pas directement, mon amitié. Et comment il y a de fait ce grand problème qui est très particulier, être et avoir. Bon, être et avoir, en réalité, se fondent sur la substance principe d'être. L'amitié, c'est un avoir. C'est mon meilleur avoir. C'est mon plus grand avoir, l'amitié. Quand j'ai un ami, je me sens moi-même beaucoup plus sûr, puisque mon ami est là pour m'aider à me donner cette sécurité, ce prolongement. Alors, je vais vous montrer comment la relation par rapport à la substance nous montre fondamentalement le point de vue être et avoir. Comme Gabriel Marcel fonde toute sa philosophie sur être et avoir, et qui n'a pas de métaphysique, c'est intéressant de comprendre que cette distinction être et avoir, qui est facile à comprendre, hein, être et avoir. Je vois bien deux petits gosses qui jouent ensemble. Instinctivement, si l'autre prend ce qu'il a, il dit « Ah, c'est à moi !» Je ne dis jamais « Mon être, c'est à moi !» C'est par rapport à l'avoir. L'avoir se développe et l'avoir se fait par la relation. Je suis un tissu de relations. Je me souviens, pendant la dernière guerre, où il y avait eu cette espèce d'exode terrible, tout le monde était parti, sans trop savoir où. Alors, on avait à Toulouse la place du Capitole, cette grande place du Capitole à Toulouse. Et sur tous les murs de la place du Capitole, il y avait des adresses. Monsieur et madame, une telle, là, à tel endroit. Et tout le monde regardait ça pour trouver une relation. On avait tout perdu, tout le monde était en exode. On avait tout quitté. Et alors on arrivait à Toulouse. On était loin de l'ennemi à Toulouse. Alors on pouvait s'arrêter. On cherchait vite à avoir une relation. Et c'était très intéressant de voir en acte, quand on a été obligé de tout quitter, de partir solitaire, qu'est-ce que l'homme fait vite ? Ah, il cherche une relation. Comme il est perdu, il a tout quitté. Instinctivement, cette place était couverte d'adresses. Un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et on voyait des gens qui regardaient tout ça pour trouver une relation. Ça vous fait comprendre ce que c'est que l'avoir. Et dans notre vie, on a bien un carnet d'adresses qu'on met dans sa poche. C'est notre avoir, hein. C'est vrai, toutes nos relations. On n'aurait plus aucune relation, noviciat. N'ayez plus aucune relation. Entrez dans votre cellule, ayez cette unique relation avec Dieu, avec Marie. Et puis permettre. Dépouiller toutes les relations. Mais ça repousse très vite. Dès que notre vie simple est terminée, oh, tout de suite, une telle relation, tous les amis possibles. Et on réécrit leur adresse. Est-ce que ça a changé la relation? Alors, au fond, on a cette distinction très profonde et très vraie, être et avoir. Et ça repose sur la substance et ce dernier petit prédicament, la relation. Et ceci, c'est pour que vous compreniez que toutes ces distinctions philosophiques qu'on fait, bon, c'est notre vie. Et que la grande confusion qui existe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus qu'à voir. L'homme vit dans l'avoir. Un avoir bancaire, ça donne une sécurité. Hein. Ça va, c'est suffisant. Je peux aller jusqu'au dernier jour. J'aurai quoi ? Un avoir bancaire, ça joue énormément, ça. C'est le désir bourgeois, hein. Une quantité de personnes. Un avoir intellectuel, ma bibliothèque. Quand, à l'égard d'un intellectuel, vous touchez sa bibliothèque, ah, c'est terrible. Vous touchez plus qu'à son être. Il vide sa bibliothèque. Il est intelligent en relation avec tous ses bouquins. Parce que si on lui dit, ah oui, c'est dans ce livre-là, vous avez cette référence. Oh, ce qu'il est intelligent. Est-ce que avoir, c'est l'intelligence? Est-ce que la contemplation, c'est avoir? Vous voyez, ce sont des distinctions qui sont capitales et on confond. Et le petit bourgeois, c'est celui qui n'existe plus, mais il a son avoir. Alors, vous savez, il y a des animaux qui construisent naturellement leur demeure. C'est les tortues. Alors que la carapace de la tortue, c'est son avoir. Non, c'est son être. Tiens, curieux. Et vous trouvez ça chez certaines personnes. L'avoir, c'est son être. Il devient des tortues. Et réellement, il devient des tortues. Ils voyagent avec leur avoir. Et si on supprime leur avoir, je suis tout nu. Je peux rien. Vous voyez, c'est une réalité qu'on doit toucher. Et comprendre que c'est quand même très intéressant de pouvoir creuser substance, principe d'être, relation. Tous nos avoirs reposent sur une relation. Oh. Alors vous faites une distinction extrêmement importante. Vous avez des avoirs qui repose sur des relations de raison, et vous avez des avoirs qui reposent sur des relations réelles. Et le monde d'aujourd'hui a confondu les deux. Mon avoir intellectuel, relation de raison, relation réelle, la manque. On confond les deux. C'est le grand mal d'aujourd'hui, hein. C'est le virtuel. Qui n'est ni réel, il n'existe pas. Il n'existe que dans la tête. Relation de raison. Et vous en faites une relation réelle. C'est ça la grosse inquiétude, moi, je crois, pour le devenir d'une commune, le devenir d'une culture. Vous voyez, la culture humaine confond être et avoir. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la personne. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est que l'amitié. Alors, pour que vous compreniez bien ce que c'est l'être de raison, l'être réel, je prends les deux extrêmes. Il faut toujours faire ça en philosophie. Il faut prendre les deux extrêmes. L'extrême de la relation de raison, c'est l'univers. C'est l'universel. le petit universel. L'extrême de la relation réelle, l'amitié. Là, vous avez là les deux extrêmes. Et avec ces deux extrêmes, vous comprenez être et avoir. L'avoir, c'est d'être un dictionnaire individuel. Il y a des gens qui sont des dictionnaires. Ils ne pensent pas, mais ils pensent comme un dictionnaire. Alors, penser comme un dictionnaire, vous passez tous les examens. On pense comme un dictionnaire. Et on croit avoir formé notre intelligence. Mais non, notre intelligence est faite pour la réalité. Pas pour l'être de raison. Ça, c'est la modalité particulière. Mais ce n'est pas la finalité de l'intelligence. L'être de raison, c'est le mercredi des cendres. Il n'y a pas grand-chose à manger. L'être de raison. L'être réel, oh, c'est merveilleux, l'amitié. Or, il arrive aujourd'hui qu'on confonde universel et amitié. Ça, c'est le comble. Et alors, Gabriel Marcel, il pense très concrètement, oui, être, avoir, l'avoir. L'avoir par excellence, c'est l'amitié. Je n'ai rien en banque. Mais j'ai un ami. J'ai tout en banque jusqu'à la fin de ma vie. C'est sûr, sécurité. Mais j'ai pas d'amis. Vous voyez, faites ce petit jeu pour que petit à petit vous arriviez à comprendre que ces distinctions métaphysiques. Mais c'est toute notre vie. Au fond, c'est vrai. Oui, c'est très gros quand je vous dis comme ça. J'ai toute ma fortune en banque, je suis assuré. Je n'ai pas d'amis. Je ne sais pas ce que je ferai. Mes vieux jours, comment je vais les passer? J'irai tous les vendredis, ma fortune le permet, prendre un bon repas et je le prendrai seul. C'est une chose terrible. Hein, je vais rarement au restaurant, mais je vois quelquefois quand des amis m'invitent, on voit le vieux monsieur qui vient seul prendre son repas. Comme c'est triste. Pour un bon repas, oh, c'est très bien. Le menu est parfait. Un très bon repas, mais il le prend seul. Il mange tout seul. C'est terrible, ça. Parce qu'au fond, manger demande que ça se prenne en famille. Il prend seul. Toute sa fortune dans la banque. Et il sait que toutes les semaines, il pourra prendre ce bon repas. Et toute la semaine est finalisée par ce bon repas. Parce que pendant une heure, il sera dans la délectation du repas. C'est comme ça que notre humanité aujourd'hui, elle est comme ça. Parce que l'être a disparu, il n'y a plus que la. En gros, c'est comme ça, si on veut saisir les choses profondément. Donc, vous voyez, la découverte de la substance me permet de faire radicalement la différence entre être et avoir. Ayant découvert la substance, je peux découvrir le dernier des prédicaments, la relation, qui est l'être le plus débile, comme dit Aristote, l'expression d'Aristote est très belle. C'est l'être le plus débile, parce que la relation, elle n'existe qu'avec l'autre. Quand l'autre n'est plus là, il n'y a plus de relation. Le vieux monsieur doit prendre son repas seul. Il n'y a plus de relation. La relation, c'est l'être le plus débile. C'est un être qui n'existe qu'en fonction de l'autre. Mais en même temps, la relation permet de développer mon avoir. Et cet être le plus débile se venge contre la substance et devient actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, l'avoir, c'est tout. La distinction entre substance et relation, être et avoir. Il nous reste, à côté de la substance, avoir deux petits problèmes annexes à la substance. J'ai vu tous les prédicaments, c'était le rayonnement de la substance. Comment la substance se manifeste à moi, par la qualité, par la quantité, par la relation, par l'action, peu importe. Le rayonnement de la substance. Même l'avoir, c'est un rayonnement de l'être. Ça devrait être un rayonnement de l'être. Mais quand l'avoir prend tout, et qui veut être, et uniquement être, là, il n'y a plus rien. Alors, ces deux problèmes annexes, après avoir vu le rayonnement et la manifestation de la substance, parce que la substance se manifeste à travers tous les prédicaments, il y a un problème très important, c'est l'individuation. La substance, dans le monde physique, or je suis dans le monde physique par mon corps. Mon corps me met dans le monde physique, pas dans le monde des esprits. Plus je m'attache à mon corps, plus je suis dans le monde physique. Plus j'étudie mon corps, plus je reste dans le monde physique. Pas métaphysique, hein. Mon corps ne me dit pas grand-chose sur la métaphysique. Mais mon corps, quand il est lié à la substance, j'ai mon âme qui informe mon corps. Et mon âme qui informe mon corps me fait comprendre le problème de l'individuation. L'individuation, nous sommes tous des individus. Qu'est-ce qui fait de vous un individu? Est-ce que c'est votre intelligence? Le père Garrigou, c'est un très bon exemple, le père Garrigou qui était très fort dans les spéculations et l'abstraction, demande à un de ses amis, vous pourriez aller recevoir ma sœur qui arrivera par le train à telle heure, et elle vient de Toulouse, vous pourriez la recevoir parce qu'elle risque d'être un peu perdue dans Paris. Alors il dit, mais comment elle est votre sœur? Oh, elle est très intelligente. Vous comprenez? C'est difficile de reconnaître la sœur très intelligente. L'individuation, elle porte tel chapeau, Alors, on aurait compris, mais très intelligente. Ça se voit pas, ça. Alors l'autre a dit, mais je vois pas très bien comment elle est très intelligente. Il faudrait interroger tout le monde pour découvrir celle qui est la plus intelligente de tout le train. C'est Mademoiselle Garrigou. L'individuation, c'est direct. On est gros, on est grand, on est maigre. Un individu. Un vieillard qui meurt par le cancer. Ce qui est de plus frappant, c'est de voir qu'il diminue en poids, en grandeur, l'individu. Et il n'y a plus que la peau sur les os. Un petit gosse, vous touchez ses mollets, il n'y a pas que la peau sur les os. Il est joufflu. L'expérience que nous avons de l'individu, c'est pas son intelligence, hein. Non, c'est son corps. Et on connaît quelqu'un par la longueur de son nez, on connaît quelqu'un par son regard, on connaît quelqu'un par sa chevelure, le tigre. Il y a des tigresses. On reconnaît quelqu'un par son corps. C'est la première connaissance et la première manifestation de la substance. L'individu. Qu'est-ce que c'est que l'individu ? Il en a un problème extrêmement intéressant et où notre expérience est directement engagée. La substance de quelqu'un, je ne la touche pas. Je n'ai jamais touché l'âme de mon voisin. Touché. Je l'ai touché intellectuellement, affectivement. J'ai dit quelque chose qui blessait quelqu'un. J'ai atteint ce qu'il y avait de plus vulnérable dans son cœur. Mais c'est son cœur qui a atteint, c'est spirituel. Et j'ai été très maladroit. J'ai touché ça. C'est pas ça l'individuation. C'est pas notre vulnérabilité. Mais cependant, notre vulnérabilité fait partie de notre individu. Alors, qu'est-ce qui fait partie directement de notre individu ? L'individuation. On est tous des individus. C'est-à-dire qu'on a tous un caractère spécial est unique. On est un individu. On est un individu. Par quoi sommes-nous un individu ? Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait l'individu comme individu ? Mon âme informe mon corps. Je voudrais bien savoir quand. C'est un des gros problèmes philosophiques d'aujourd'hui. Et le Saint-Père, sur l'encyclique de la vie, a dit très sagement, je ne pouvais pas savoir avec exactitude à quel moment l'âme informe mon corps. Vous savez bien, c'est un problème qui divise aujourd'hui. Ceux qui prétendent que l'âme est créée tout de suite, dès la conception. Qui, à la suite de Thomas d'Aquin, pour Thomas d'Aquin, l'individuation, mon âme dans mon corps, ne s'est pas faite tout de suite. Il a fallu un certain temps. Et vous voyez, à cause d'une apologétique pour respecter le fœtus, pour respecter le tout petit enfant, on dit que son âme a été créée très vite par Dieu. Et si on dit que l'âme est créée en même temps que la conception, c'est pour qu'on puisse tout de suite montrer que tout avortement est un crime. Tandis que si l'âme n'est pas encore là, c'est pas un crime. Alors on est obligé de montrer que le fœtus, il est fait pour être un homme, selon sa nature. Et donc, puisque c'est inscrit dans sa nature de devenir un homme, même si l'âme n'est pas là, c'est un crime. Parce qu'on tue celui ou cela qui pourrait être un homme. Donc, au point de vue moral, c'est l'intention qui compte. C'est pas le fait brutal, c'est l'intention. Alors, peu importe. Alors, c'est très important de comprendre que le problème de l'individuation touche, mais n'est pas le même problème que l'information de mon âme par rapport à mon corps. Nous avons tous une âme. Nous avons tous un corps. Mon âme détermine mon corps. L'informe. C'est ça que ça veut dire, informer, détermine. Et est-ce que mon âme détermine la couleur de mes cheveux? Est-ce que mon âme détermine la forme de mon nez? Est-ce que mon âme détermine la figura? Vous voyez, ce problème qui est très important, qui est très intéressant, c'est Léonard de Vinci qui prétend qu'à 40 ans, on a la figure de son âme. C'est bien arty, ça. À 40 ans, l'âme a pris possession complète du corps et donc s'exprime par mes yeux, par mon nez, par ma bouche. Alors, c'est juste et c'est pas juste. Il y a des gens qui ont des gueules de brigands et qui sont des saints. Parce qu'ils ont eu des ancêtres brigands. Mais eux, personnellement, sont des saints. Tout l'atavisme, il est transmis dans mon corps. Rien si mes grands-parents étaient ivrognes. J'en peux rien. On m'a pas demandé mon avis. L'atavisme, il est donné par la Providence. Et je crois en la Providence. C'est pas moi qui ai choisi. Et ça dépend beaucoup. L'atavisme
Mais mon corps n'a pas été formé directement par mon âme. Oh, tiens, il faut distinguer nature et personne. Mon corps, il dépend de la nature. Il dépend de tous mes ancêtres. On sait que l'atavisme, c'est 8-9 générations. Ça se répète. Il y a un petit signe particulier qui montre que c'est bien mes parents. Une famille, on voit l'atavisme du père et l'atavisme de la mère. Vous avez la moitié de votre figure qui est paternelle et l'autre moitié qui est maternelle. Et ça fait un heureux mélange. Caractérise particulier. C'est très curieux, ça. Et ça, je suis obligé de tenir compte de ça. Je suis obligé de tenir compte que l'atavisme joue un rôle très important. Et l'atavisme a fait que des petits détails qui se répercutent dans le visage, dans le regard, dans tout le corps, il y a des marques comme ça. Et l'atavisme est double, puisque père et mère. Alors, pour certains, l'atavisme maternel est très fort. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à votre mère. Aucune trace de votre père. C'est faux, il y a toujours une trace. Mais c'est vrai, certains ressemblent beaucoup plus au père ou à la mère. Et dans une famille, quand les enfants sont suffisamment nombreux, on distingue très nettement l'atavisme du père, l'atavisme de la mère, l'atavisme du grand-père et l'atavisme de la grand-mère. Alors là, c'est encore plus compliqué. Grand-père, maternel, paternel, et des deux côtés. Alors, ce n'est plus seulement deux, mais c'est quatre. Alors, ça fait un mélange d'étonnant. Et quand vous remontez encore plus loin, ça fait plus que quatre. Notre corps porte tout ça. C'est extrêmement curieux. Et quand il y a un atavisme terrible, c'est-à-dire un déséquilibre, parce que ça existe. Alors, c'est très fort remarqué par le corps. Donc, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la puissance de l'atavisme. Je crois que ça, nous en sommes tous convaincus. Mais il faut le voir, hein. Il faut le toucher. Sensiblement. Parce que vous comprenez que si l'âme est créée dès le point de départ, je ne vois pas comment l'atavisme peut jouer ce rôle si important. Or, de fait, l'atavisme joue un rôle très important. Ça, on ne peut pas le nier. Oui. Quand il y a un père qui est complètement déséquilibré, quand ce père avait 20 ans, le déséquilibre ne se voyait pas très fort. Mais quand ce père a 50 ans, ça se voit très fort. Et les enfants portent, à partir de tel âge, cet atavisme se voit, se manifeste. L'atavisme ne se voit pas tellement fort chez le tout petit enfant. Ils sont tous les mêmes, hein. Ils sont charmants. Et cependant, chacun de ces petits-enfants porte en lui un atavisme. C'est une réalité, ça. C'est une réalité qu'on doit constater et qui est très importante. On n'en peut rien d'avoir eu un grand-père noceur ou un grand-père saint. On n'en peut rien. Mais les dents des petits-fils en sont agacées. Ou au contraire, les dents des petits-fils en sont joyeux. Je suis content que mon grand-père était un saint. Alors, je ne dis pas que sa sainteté est passée chez ses petits-enfants, mais son ivrognerie n'est pas passée. Et c'est beaucoup. La réalité de l'atavisme est substantielle dans le corps. Il marque mon corps. Par le fait même, il faut donc une période où mon corps a uniquement dépendu de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Si mon âme avait été créée tout de suite, dès le point de départ, la puissance de l'âme par rapport au corps aurait déterminé le corps. Et donc, l'atavisme n'aurait pas pu se développer. Alors, il faut songer à ça. Parce que ça, c'est très important. Et c'est un problème très actuel, ça. C'est même peut-être le problème le plus actuel. Parce qu'on est très tourné vers le point de vue psychologique. Or, le point de vue psychologique dépend quand même énormément des premiers plis qu'ils peuvent avoir dans mon corps, et donc de l'atavisme. C'est tout un équilibre physique, corporel, qui est radical.